Ce matin, je n'avais pas envie de partager avec vous un grand texte, un texte inédit, un texte déniché dans un recoin de la Bible oublié. Mais j'avais à cœur un grand classique. Un texte que si vous fréquentez les églises depuis un certain temps, vous avez déjà entendu. Il s'agit de l'appel d'Abraham, l'appel qu'Abraham reçoit en Genèse 12, au tout début de Genèse 12. C'est un court récit. Je vais juste lire les quatre premiers versets du chapitre 12 de Genèse. Genèse, chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Voilà, c'est un texte que j'avais envie de partager avec vous. Un texte connu. Vous connaissez certainement l'histoire d'Abraham. Abraham, qui n'a pas toujours été appelé ainsi, et on le voit dans ce récit, il s'appelle encore Abram. Ici, c'est un tournant de la Bible. C'est le tout début de l'histoire de la foi. C'est là, j'allais dire, c'est là que tout commence. Non pas l'histoire de l'humanité, mais l'histoire du peuple de Dieu, de ceux qui marchent avec Dieu, et cette histoire qui continue encore aujourd'hui. C'est là qu'elle commence. Dans le texte que nous avons lu, il y a deux mouvements. Deux ordres du Seigneur de se mettre en mouvement. Le premier, c'est « quitte » et le deuxième, c'est « va ». Quitte. « Va-t'en même » dans la version que j'ai lu. Va-t'en de ton pays, là où tu es installé, là où tu as fait ta vie, là où tu as tes possessions. Va-t'en. Va-t'en du lieu de tes origines, de là, du lieu de ta culture, là où tu as tes repères. Tu sais comment on parle, tu sais comment ça marche, tu connais les codes sociaux. Va-t'en. Va-t'en de la maison de ton père, de là où il y a ta famille, où il y a tes amis, où il y a tes solidarités. Va-t'en. Pars. Et va là où je t'emmènerai. Abraham a 75 ans quand il entend ça. Ce que Dieu lui demande n'est pas facile. Il y a du vécu derrière lui. Il y a des repères, il y a des choses qu'il a construites. Cet appel, il est difficile à suivre. Et qu'est-ce qu'il a pour l'amener de l'avant? Qu'est-ce qu'il a qui lui donne envie d'y aller? Il y a une belle promesse, une très belle promesse. La promesse d'être l'ancêtre d'une grande nation. La promesse d'avoir la bénédiction du Seigneur, la promesse d'avoir un nom grand, c'est-à-dire d'être un homme important. La promesse, même au-delà de lui-même, à la postérité, d'être une bénédiction au futur, une bénédiction intense. Une bénédiction où Dieu bénira ceux qui le bénissent, où il maudira ceux qui le maudissent. Et que tous les clans de la terre se béniront à travers Abraham. Que tous les hommes se diront les uns aux autres, sois béni comme Abraham l'a été. Va. Va vers le pays que je te montrerai. Tout est conjugué au futur. Abraham n'a aucune idée de là où Dieu l'envoie. Aucune idée de là où il va aller. Il y a une belle promesse, mais pour la voir, pour y goûter, il va falloir y aller. C'est comme au poker. Il faut d'abord payer pour voir. Il n'a pas d'acompte. Il faut qu'il se mette en route. Le récit est court. La Bible parle peu, ne parle pas, de l'hésitation d'Abraham, de son éventuelle hésitation. De combien de temps il a pesé le pour, le contre avant de se mettre en route. Notre récit nous le dit. Il part comme le Seigneur le lui avait dit. Il part juste avec cette parole, avec cette promesse et cet ordre qui lui vient de Dieu. Il est intéressant d'évoquer la suite. La suite, eh bien, Abraham a connu des hauts et des bas. Va vers le pays, il y est allé. Il est allé dans le pays que Dieu avait prévu pour lui, le pays de Canaan. Mais il ne s'y est pas installé. Ce pays appartenait à d'autres personnes. Il y a vécu comme étranger. Il s'est beaucoup déplacé, il a été nomade. Entre la Mésopotamie et l'Égypte, il est allé partout. Il est repassé par Canaan. Il n'a pas pu s'y installer. Et quand sa femme est morte, eh bien, il a dû marchander pour obtenir un petit bout de terrain pour pouvoir l'y enterrer. Dans ce pays qui, pourtant, était la promesse qui allait lui revenir. Dieu lui a promis d'être une grande nation. Il n'avait même pas d'enfant. Et sa femme ne pouvait pas en avoir. Sa femme était stérile. C'est écrit depuis le début, avant même le récit que nous avons lu, quand on nous présente Abraham dans la généalogie de avant, on nous dit que Sarai, sa femme, était stérile. Difficile dans ces conditions d'avoir une descendance. Alors il y a bien Lot, son neveu, le fils de son frère défunt. Ça ferait bien ça comme fils adoptif, justement pour être cette grande nation. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Lot, il a dû s'en séparer parce qu'ils étaient trop nombreux, parce que ça collait pas, parce qu'il y avait des disputes. Il a bien essayé d'utiliser une mère porteuse. Sa femme a arrangé un truc avec sa servante Agar. Il a même eu un fils, Ismaël. C'était peut-être lui par lequel le peuple nombreux viendrait. Mais finalement, au moment où plus rien n'était possible, où l'âge faisait qu'il n'était plus possible d'avoir d'enfants, eh bien, Isaac est né de sa femme, Sarah. Le fils de la promesse. Quelle joie! Le début de l'accomplissement de la promesse. Mais Abraham, Dieu l'a testé aussi. Comme si, après tous les bricolages qu'il avait faits avec Lot, avec Ismaël, pour essayer de faire advenir cette promesse, Dieu a voulu voir s'il avait vraiment confiance. Et il lui a demandé de sacrifier son fils. Ce miracle vivant. Ce fils tant attendu. Et finalement, Dieu a laissé Isaac à son père. Mais Abraham a pu démontrer sa confiance en Dieu. Il a pu montrer, eh bien, qu'il comptait sur lui pour ce peuple. Montrer qu'il comptait sur lui pour sur Dieu, pour l'accomplissement de sa promesse, et qu'il allait arrêter de se débattre pour la faire advenir lui-même. Abraham, il a vécu des choses extraordinaires. Il est mort âgé, on nous dit après une vieillesse heureuse. Il est mort rassasié de jours. Il avait eu tout ce qu'il lui fallait. Il a vu agir Dieu. Il lui a vu lui donner un fils à un âge où on n'espère plus ces choses. Et puis, Abraham, il a parlé à Dieu face à face. Il a eu une intimité unique avec Dieu. Je connais aucun autre personnage biblique qui a pu s'entretenir avec Dieu comme Abraham l'a fait au sujet de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit que Abraham mit sa confiance dans le Seigneur et il la lui compta comme justice. Dieu a déclaré Abraham juste, c'est-à-dire digne de se tenir devant lui. Il l'a même appelé ami de Dieu. Quel privilège ! Abraham a été l'ami de Dieu. Il lui a changé son nom de Abraham, père éminent. Il l'a fait appeler Abraham, père d'une multitude. Il lui a donné un nouveau nom, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Et si Abraham n'a pas pu goûter l'accomplissement de toutes les promesses, il a goûté à cette vie nouvelle, il a vécu cette vie nouvelle avec Dieu. Abraham, c'est vraiment un cas particulier dans la Bible. Le Nouveau Testament le cite à plusieurs reprises. Jésus le cite, Paul le cite, Jacques le cite comme un exemple. Et il est appelé le père des croyants. Et Paul explique bien pourquoi il est le père des croyants. Il n'est pas le père parce qu'il y a une descendance, parce que tout le peuple juif descend de lui de façon héréditaire. Il est le père par cet acte qu'il a fait, cet acte de croire. Il est le père de tous ceux qui, comme lui, ont cru, qui s'inscrivent dans ses traces. Et c'est ça qu'il a fait. C'est ça qui a fait qu'il est aussi important. Il a cru la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli qui l'a rendu important. Et on l'a bien vu, j'ai cité quelques exemples, il y en a plein d'autres dans le récit biblique. Il a fait des boulettes, Abraham. Il a essayé de se dépatouiller tout seul. Il a fait des trucs pas jolis. Mais il reste un exemple, parce qu'il a cru, parce qu'il s'est mis en marche sur la parole du Seigneur. Abraham n'a pas toujours été un modèle de conduite, mais par cette décision de répondre à l'appel du Seigneur, à l'appel de Dieu, cette décision de se mettre en route, il a été déclaré juste, digne de se tenir devant lui. Ça lui a valu d'être appelé ami de Dieu. Et ceux qui croient à sa suite sont ses enfants. Et nous sommes invités à faire comme lui. Nous sommes invités à avoir la même réaction qu'Abraham. Nous sommes, nous aussi, appelés. Jésus est venu dans le monde et il nous laisse avec cette interpellation. Toi, suis-moi. Quand on lit l'Évangile, cet appel résonne. Toi, suis-moi. Et pour nous mettre en route à la suite de Jésus, nous n'avons rien d'autre que cette parole. On n'a pas de période d'essai. D'essai gratuit, où on essaie la vie chrétienne, et puis après Jésus nous demande, alors, ça te plaît, on y va ou pas ? Non, il y a cet appel. Toi, suis-moi. Il y a cet appel, et cet appel avec une promesse. Une promesse de changer de vie pour vivre une vie nouvelle. Une vie qui commence aujourd'hui dans ce monde, mais une vie qui n'aura pas de fin, une vie éternelle. Jésus la promet à maintes reprises, mais j'aime particulièrement ce verset, Jean 5, verset 28, où Jésus dit « Vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, celui-là possède dès à présent la vie éternelle. Il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. » Dès maintenant, dès à présent, il possède la vie éternelle. Dans le futur, il ne sera pas condamné. C'est déjà passé, il est déjà passé de la mort à la vie. Voilà la promesse que Jésus fait à ceux qui se mettent en route pour le suivre. Pour le suivre parce que nous aussi, il nous invite dans un voyage. Le moment où on prend la décision de vivre avec lui, ce n'est pas le point d'arrivée de la vie chrétienne. Ce n'est pas le but du voyage que devenir chrétien. C'est se mettre en route. C'est le début du voyage. À partir du moment où nous suivons Jésus, nous ne sommes plus attachés à ce monde, à sa géographie, à sa géopolitique, à ses valeurs, à ses intérêts. Notre objectif n'est plus la réussite professionnelle, n'est plus d'avoir une famille à qui transmettre un héritage. C'est plus notre plaisir, le bonheur, l'épanouissement personnel. Notre objectif, c'est le royaume de Dieu, son avancement. Notre objectif, c'est la gloire de Dieu. Ça veut dire que, ici, dans ce monde, nous sommes des étrangers. Nous ne sommes pas complètement en phase. Il y a des moments que nous passerons ici qui seront agréables, hein. Des moments où nos objectifs convergent, des moments où on peut vivre des belles choses, on peut faire du bien, être reconnu, être apprécié. Mais il y a des moments aussi où nous sentirons que nous ne sommes pas d'ici. Dans certains pays, juste parce qu'on est chrétien et que ça ne va pas dans le tableau, eh bien, on court le risque d'être persécuté. Notre vie est en danger. Peut être la cible de violence. Ce n'est pas le cas en France, mais ce n'est pas loin. De l'autre côté de la Méditerranée, de l'autre côté de l'Europe. Mais même ici en France, nous sommes des étrangers. On nous rappellera que la priorité mise sur Dieu, c'est quand même un peu louche. On nous rappellera que la liberté individuelle, c'est sacré. Et que de vous vouloir vivre dans une volonté supérieure, dans la volonté de Dieu, la rechercher, tout ça c'est du fondamentalisme. Il faut accepter de vivre avec cette étiquette. À nous aussi, Jésus nous demande des sacrifices. Il ne nous demande pas forcément de tout quitter physiquement, mais dans nos priorités, dans la profondeur. Il nous demande de quitter nos attachements, de nous considérer comme quelqu'un de passage, de ne pas développer d'attache avec ce monde, mais de viser son royaume, le royaume des cieux. Si quelqu'un veut venir à ma suite, dit Jésus, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se renie lui-même. On a ici un résumé des sacrifices à faire. Ailleurs, Jésus a invité ses auditeurs à se détacher de leur famille. Ailleurs, il les a invités à se détacher de leurs richesses. Se détacher de tout pour le suivre. Il attend que nous soyons prêts à abandonner notre sécurité matérielle, le confort de notre culture, notre famille même. Prêts à tout abandonner pour le faire passer en premier. Mais la vie avec lui, elle est pleine de promesses. Ce n'est pas comme Abraham, on n'a pas la promesse d'être le père d'une grande nation. Abraham, il est unique, c'était sa promesse pour lui. Mais les promesses, elles sont nombreuses quand on lit ce que Jésus nous dit. Il nous promet l'abondance de l'Esprit de Dieu en nous. Si quelqu'un a soif, dit-il, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive, car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Cette joie de le voir travailler en nous, de le voir nous transformer, de le voir nous rendre meilleurs, de le voir nous rendre toujours plus semblables à ce qu'il veut pour nous. C'est cet esprit qui nous rend capables de faire des choses que nous n'imaginons pas. De nous tenir devant des gens qui nous impressionneraient. De leur tenir tête. De faire du bien à ceux qui sont autour de nous. De donner un coup de pouce. Et de voir le Seigneur changer des vies par ces petits coups de pouce qui nous permettent de donner. Il nous bénit aussi par sa grâce, la grâce qu'il nous donne. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre, écrit Jean. La grâce, vivre sous la grâce, c'est le plaisir de ne plus vivre sous la pression. De ne plus avoir de choses à accomplir, de ne plus avoir de choses à prouver, mais d'être accepté tel que nous sommes. Aimer pour ce que nous sommes et non pas parce que nous devrions devenir. Et puis dans les bénédictions, j'en ai déjà parlé, il y a la vie éternelle que nous commençons dès aujourd'hui. La vie éternelle, ce n'est pas une récompense un peu naïve de la vie au paradis, c'est la perspective d'avoir une vie qui a du sens, qui s'inscrit dans l'éternité. La perspective de vivre un jour dans le monde parfait qu'a voulu Dieu. De ne plus vivre dans la souffrance due au péché et à ce qu'il a causé sur le monde. C'est la perspective de travailler dès aujourd'hui à ce royaume. Et Jésus dit d'amasser des trésors dans ce royaume, des trésors qui durent toujours. C'est la possibilité de s'inscrire dans un travail qui reste et au risque de me répéter, de nous répéter, je dirais, d'être ouvrier avec Dieu, collaborateur de son œuvre, travaillant avec lui pour ce qui compte le plus. Ce sont de belles promesses et moi, elles m'ont fait envie. J'ai voulu vivre ça. J'ai trouvé que c'était le plus important. J'ai trouvé que c'était ce qu'il y avait de meilleur et j'ai voulu donner ma vie à Dieu. Quand j'étais enfant, et puis j'ai voulu le confirmer quand j'avais 18 ans, par le baptême, pour mettre un acte sur cet engagement, pour le montrer à tous, pour le montrer à moi-même, pour m'engager. Et pourtant, ça n'a pas toujours été tout droit. Certains m'ont certainement entendu en parler. Quand j'avais 18 ans, je suis allé dans une convention de jeunes, comme Connexion 2015, où vont aller deux de nos jeunes. Et je me souviens de cultes forts, de temps forts où j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Et j'ai vraiment senti son appel sur ma vie. Et j'ai voulu répondre à cet appel. J'ai voulu tout lui donner, sauf une chose. Je lui ai dit que je le servirais, mais que je ne veux pas être pasteur. Que je serais témoin dans le monde, témoin dans mon travail. Et c'est un super ministère d'être chrétien là où l'on est, d'être chrétien dans son travail, d'être un employé honnête, un père de famille équilibré, un voisin vers qui on peut se tourner. Le monde en a besoin. Il a besoin de gens comme ça pour lui montrer le Seigneur. Mais ce n'était pas son plan pour moi. Il a été patient avec moi. J'ai pris quelques détours, j'ai voulu faire les choses à ma façon. Mais Dieu m'a rattrapé. 20 ans plus tard, il m'a rattrapé et ce que je ne voulais pas être, j'ai dû l'abandonner. Et je suis pasteur comme il l'a voulu. Tous n'ont pas les mêmes choses à quitter. Tous n'ont pas à devenir pasteur. Tous n'ont pas à le servir à plein temps. Et certains même doivent quitter ce rêve. Parce que ce n'est pas ce que Dieu leur demande. Quand on se met en route à sa suite, on ne sait pas jusqu'où ça ira. On ne sait pas où il nous emmènera. On ne sait pas où il a prévu que nous y allons. Une chose est sûre, il y aura des choses à quitter. Mais une chose est sûre aussi, c'est qu'il y a sa promesse qui nous attend sur le chemin et au-delà. Pour nous non plus, ce ne sera pas toujours rose. Nous aussi, nous devons attendre l'accomplissement de certaines promesses. Certaines promesses qui ne s'accompliront qu'après le retour de Jésus. La fin de la souffrance, la pleine communion avec le Saint-Esprit. Tout ça, nous le vivrons pleinement à son retour. Nous aussi, en cours de route, nous commettrons des bêtises. Quelquefois, en cours d'apprentissage, on lui obéira pas immédiatement. En tout cas, je sais que c'est mon combat. C'est important de lui obéir jour après jour, mais ce qui compte le plus, c'est ce oui initial. Ce qui compte le plus, c'est de se mettre en mouvement avec lui, d'accepter son invitation, d'accepter de se mettre en route à sa suite, sur sa parole. Et nous aussi, si nous répondons positivement, nous verrons la vie qu'il nous promet. Nous serons avec Dieu, nous serons même appelés amis de Dieu. Jésus nous l'a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Mais il attend notre réponse positive pour commencer l'aventure avec nous. Quelle réponse lui donnerons-nous? Quelle réponse lui donneras-tu? Quelle réponse? Peut-être n'as-tu jamais répondu positivement à l'appel de Jésus. Et pourtant, il retentit. Viens, suis-moi. Peut-être tu hésites. Tout quitter, juste sur une parole, sans savoir où tu vas. Est-ce bien raisonnable? Tu as la promesse du Seigneur, promesse de bénédiction, engagement de marcher avec toi, perspective d'être ton ami. Que vas-tu répondre? Peut-être tu as déjà répondu à cet appel. Mais pourquoi pas le réentendre? Pourquoi pas faire le bilan? La vie d'Abraham nous montre que parfois on s'égare. Parfois on fait des détours. Parfois on a du mal à lui faire pleinement confiance pour nous bénir. Cette réponse positive que tu as donnée, l'appel d'Abraham vient te la rappeler. Où en es-tu? Est-ce que tu vis l'abandon à Jésus, la confiance complète, comme tu souhaitais le faire? Je vous invite à prendre un temps devant Dieu, un temps de silence où chacun laisse résonner cet appel en lui. Face à cet appel du Seigneur, je voudrais vraiment te dire que tu n'es pas seul. Tu peux venir en parler avec moi, avec d'autres anciens, avec des gens dont la foi est solide dans l'Église. Et je t'encourage à en parler. Parler à quelqu'un qui t'accompagnera, qui te demandera où tu en es, qui t'encouragera pour persévérer dans cet engagement. Mais plus que tout, pour ce voyage, Dieu est avec toi. Comme il est écrit dans le psaume 121, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Il est avec toi. Il t'appelle. À toi de voir.